Cap Nature.
Cap Nature Sandrine, bonjour.
Oui, bonjour madame. Je vous appelle, je voudrais juste savoir si vous avez été dévalisée ou s'il y a encore des choses en rayon.
Alors, on a été dévalisée.
Je sais que certains d'entre nous ont des doutes sur ce que nous allons faire. Nous ne serions pas des hommes si nous n'en avions pas. Mais le sort de notre pays, peut-être du monde, est entre nos mains. Nous ne pouvons pas. Nous n'osons pas refuser ce fardeau. Je suis convaincu que chacun d'entre vous fera son devoir.
Salut à toutes et à tous, Philippe au micro, bienvenue dans votre émission quotidienne en attendant que le monde change. Malgré le déconfinement, continuons à respecter les mesures barrières, car se protéger, c'est aussi protéger les autres. Alors, au programme aujourd'hui, des petites lectures et des informations autres que le Covid-19. On va commencer par Marie, qui va vous faire deux petites lectures et ainsi continuer notre découverte de la belle culture nord-africaine. Et nous, on se retrouve juste après. Protégez-vous, on s'occupe de tout sur Radio Campus Tours.
Bonjour, c'est Marie pour Radio Campus Tours. Aujourd'hui, je vais vous lire un conte marocain. Celui-ci s'appelle « Aou ». La méchanceté se retourne toujours contre celui qui en est l'auteur, dit un dicton populaire. Un homme avait épousé une veuve qu'il aimait beaucoup. Il avait un fils d'un premier mariage. Il vivait avec eux, mais n'était pas heureux, car son beau-père le détestait. Un jour où sa femme avait préparé une pastilla, le beau-père décida d'en priver sans raison le garçon. Au moment de passer à table, il l'envoya faire des courses. « Cours vite au souk, lui ordonna-t-il, et ramène-nous du pain, des figues et un haou. » Le garçon acheta 3 keshras, 1 kilo de figues, et se mit à chercher le haou. Dans toutes les boutiques où il entrait pour en demander un, les commerçants se moquaient de lui. Comme il craignait la colère de son beau-père, il n'osait pas rentrer chez lui. En déambulant dans la dédale des rues de la Médina, il rencontra des enfants qui avaient trouvé un scorpion. Il s'amusait à approcher l'index le plus près possible du dard de l'animal. Puis, il le retirait rapidement en criant « Aou !»« Voilà enfin ce que je cherche !» se dit le garçon. Les enfants lui cédèrent sans difficulté le scorpion en échange d'une pièce de monnaie. Il était noir comme les figues. Le garçon le mit dans le sac de fruits et retourna chez lui satisfait. « J'espère que tu rapportes tout ce que je t'ai demandé, » dit le beau-père. « Oui. Le Aou aussi ?»« Bien sûr. Où est-il ?»« Avec les figues. » « Je ne le vois pas, » dit le beau-père en regardant dans le sac. « C'est parce qu'il est de la même couleur que les figues ou parce qu'il est dessous. » Intrigué, le beau-père décida de vider le sac. Il y plongea la main, saisit une figue qu'il posa sur la table, puis il en prit une autre et fit de même. Au moment où il introduisait la main dans le sac pour la troisième fois, le scorpion le piqua. « Aou !» hurla-t-il. Bonjour, c'est Marie pour Radio Campus Tours. Aujourd'hui, je vais vous lire un conte d'Afrique du Nord, un conte tunisien, le Fela entêté. Jamais l'entêtement ne mènera bien loin. Un Fela avait la réputation d'être un homme entêté. Un après-midi, il croisa un voisin au bord de l'Oued. « On m'a volé mes outils, lui dit-il, et je n'ai plus rien pour moissonner mon blé. Pourras-tu me prêter une faucille ? Ce n'est pas le bon outil pour faire ce travail. Il vaut mieux que tu utilises une paire de ciseaux. Ne te moque pas de moi, personne n'a jamais moissonné avec des ciseaux. « Détrompe-toi, soutint l'hôte. Je connais de nombreux paysans qui font ainsi. » Le ton monta et les deux hommes en vinrent aux mains. Au cours de la bagarre, le Fela entêté glissa et tomba dans l'oued. Aucun des deux hommes ne savait nager. Le Fela entêté se débattit quelques instants dans l'eau sous les yeux impuissants de son voisin, qui ne pouvait l'aider au risque de se noyer aussi. Puis il s'enfonça et avant de couler complètement, sa main droite émergea des flots. L'index et le majeur remuaient, simulant des lames d'une paire de ciseaux en train de couper. Jusqu'à son dernier souffle, il soutint que l'on pouvait moissonner avec cet outil.
On est de retour sur Radio Campus Tours 99.5 FM. Je vous rappelle que cette émission vous est proposée toute la semaine de 11h30 à midi et sera rediffusée de 16h30 à 17h, sauf le vendredi où ce sera à 17h30. On va écouter une chanson qui est passée sur notre partenaire libanais, Radio Quarantina, dont vous retrouverez chaque soir sur nos ondes une playlist. Voici Sarah Perchettiamo par Ricky et Povare.
Che cresce piano piano, stringimi forte e
siamo.
Che confusione sarà perché ti amo.
Maintenant, on va passer la main à Sophie et les étudiants de l'école de journalisme de Tours pour la chronique à part le coronavirus.
D'abord, on commence par se laver les mains avec du gel hydroalcoolique ou du savon.
Que les gens, ils ont besoin d'être protégés, point.
Déconfinement.
Qui va commencer à partir du 11 mai.
Déconfiner d'abord les beaux gosses, les hommes, les beaux.
Les masques.
On pose le masque.
Des masques.
Sur le visage.
C'est là que je réalise que le déconfinement, c'est comme le confinement, mais avec le droit de consommer des trucs dont on n'a pas besoin.
Le déconfinement.
Bonjour à tous chers auditeurs déconfinés et bienvenue dans le monde d'après. En ce lundi 11 mai 2020, nous vous proposons un tout nouveau format pour notre émission « À part le corona, il se passe quoi ?». En effet, avec la levée du confinement, nous avons voulu faire évoluer ce podcast. Voici donc la saison 2 d'À part le corona, il se passe quoi ? Toujours réalisée depuis chez nous, compte tenu des restrictions, mais avec quelques modifications et compléments. Si l'information sans corona est encore d'actualité et a toujours la part belle dans notre émission, nous avons également voulu tendre le micro aux acteurs du monde d'après le corona, un monde pour lequel certains ont déjà commencé à se battre. Après un tour de France et du monde de l'actualité détoxifiée, nous aurons donc le plaisir de diffuser notre premier entretien réalisé avec Samuel Avaux qui nous parlera d'Anaod, sa marque de vêtements 100% recyclée. Vous pourrez lâcher prise en fin d'émission avec notre pause culture et Solène qui a choisi les zombies pour se divertir. Quoi de mieux en ce premier jour de déconfinement ? Mathilde sera également notre invitée et viendra nous parler du podcast qu'elle a lancé avec des amis confinés et d'un beau projet de radio en Algérie qui suit son cours. Au programme de ce lundi 2 mai, au goût particulier, il sera question avec Solène d'orage, de marcheurs dissidents, de policiers condamnés ou encore de reblochons. À l'international, Caroline nous parlera d'une arrestation pour meurtre, d'une plainte pour crime de guerre contre l'ancien Premier ministre ivoirien et l'interdiction des thérapies de conversion pour les mineurs en Allemagne. Enfin, en loisirs, culture, planète, on redescendra sur Terre en douceur avec Sophie. Cette émission est toujours bricolée par Sophie, Lucas, Solène et Caroline, journalistes de Canapé maintenant déconfinés et étudiants à l'EPJT, l'école publique de journalisme de Tours.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir.
Les grands titres du journal.
Le menu est dense et on commence sans plus attendre avec Solène.
La France sous les orages. Ce week-end, plusieurs départements ont été touchés par des pluies et orages violents. En Vendée, il y a eu près de 150 interventions des pompiers pour des inondations, une centaine en Normandie. Et ce n'est pas près de finir. Hier et aujourd'hui, 18 départements ont été placés en vigilance orange par Météo France. Un nouveau groupe politique va-t-il naître à l'Assemblée nationale ? Insatisfaits par les mesures sociales et écologiques de la majorité, 58 députés venus de La République En Marche et des Écolos devraient fonder, début juin, le 9e groupe de l'hémicycle, nommé Écologie, Démocratie, Solidarité. Ce groupe, s'il voit le jour, risque de faire perdre la majorité absolue à La République En Marche. De la prison ferme pour 3 policiers. C'est rare et pourtant, 3 policiers marseillais ont été reconnus coupables le 6 mai de violence lors d'une intervention. Ils avaient frappé un homme à plusieurs reprises avant de le conduire et l'abandonner en pleine nature, puis avaient dissimulé la vérité dans le procès verbal. Le plus gradé des 3 a été condamné à 4 ans de prison ferme. Des bouquetins tués en Haute-Savoie pour sauver le reblochon. Victime d'une épidémie de brucellose qui pourrait contaminer le lait de ce fromage, la préfecture du département a autorisé à tuer, pour commencer, 20 bouquetins dans le massif du Bargis. Les associations de défense de cet animal contestent l'abattage, fait sans tester la maladie, et qui pourrait donc menacer des animaux en bonne santé.
Un chiffre pour commencer un rapide tour du monde, Caroline.
74, c'est le nombre de jours qu'il aura fallu pour arrêter les meurtriers d'un jogger aux États-Unis. Hamoud Arbery, un noir de 25 ans, a été tué le 23 février en Géorgie, pendant qu'il courait, par 2 hommes blancs qui le soupçonnaient de cambriolage. La vidéo de son assassinat, diffusée mardi 5 mai sur les réseaux sociaux, montre comment les meurtriers l'ont poursuivi, puis abattu de 3 balles. Ils ont été arrêtés jeudi 7 mai. Au Burundi, les élections générales se préparent dans le chaos. Le 20 mai, les Burundais voteront pour des élections municipales, législatives et présidentielles. Le parti au pouvoir, CNDD-FDD, déterminé à remporter ce triple scrutin, a fait arrêter de nombreux cadres et membres du parti de l'opposition, le CNL. Les observateurs internationaux craignent une montée de violence au Burundi. L'ancien premier ministre ivoirien est visé par une plainte. Guillaume Soro est accusé de torture, d'assassinat et de crimes de guerre. Il aurait commandité le meurtre d'Ibrahim Koulibaly, un ex-chef rebelle ivoirien. Guillaume Soro, qui récuse ces accusations, est candidat à l'élection présidentielle de la Côte d'Ivoire prévue en octobre 2020. On revient en Europe avec une bonne nouvelle, puisque l'Allemagne interdit les thérapies de conversion pour les mineurs. Ces thérapies ont pour but de changer l'orientation sexuelle des homosexuels ou bisexuels pour les convertir à l'hétérosexualité. Rappelons que l'homosexualité n'est pas une maladie et que ces thérapies augmentent les risques de dépression et de suicide pour les personnes qui les subissent. En Corée du Sud, l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder est poursuivi en justice. Son crime, s'être marié à Kim So-yeon. L'ex-mari de son épouse l'accuse d'être la cause de leur divorce. La femme de Gerhard Schröder s'est défendue en disant qu'elle et son ex-mari vivaient séparément depuis des années, avant de divorcer en 2017. On termine l'actualité internationale avec un heureux événement. Le futur héritier du Luxembourg est né dimanche 10 mai. Charles-Jean-Philippe, Joseph, Marie-Guillaume et sa mère, la princesse Stéphanie, sont en bonne santé.
Et enfin, Sophie pour la culture.
Le chanteur de rhythm and blues américain Little Richard est mort samedi 9 mai à 87 ans. Celui qui s'autodésignait comme l'architecte du rock and roll avait commencé le chant dès l'enfance dans les églises gospel de Géorgie. Il perça en 1955 avec son morceau Tutti Frutti. La Chine avance toujours un peu plus dans sa conquête spatiale. Son nouveau vaisseau a atterri sur Terre avec succès vendredi 8 mai, après un décollage 2 jours plus tôt. La capsule spatiale aura pour mission d'acheminer des futurs astronautes vers une nouvelle station spatiale, mais également de réaliser des vols longue durée dans l'espace. Toujours au-delà de notre atmosphère, un télescope hawaïen a réussi à prendre des photos inédites de la belle Jupiter. Une technique de superposition d'images infrarouges a permis de percer à jour la géante gazeuse enveloppée d'une épaisse couche de nuages. Ces images permettent de mieux comprendre les tempêtes et les éclairs qui ont lieu à sa surface. Et c'est la fin de ce petit tour d'actualité, on passe maintenant au reportage.
Et vous faites un reportage sur ?
Demain !
Demain ?
Demain.
Demain, tout ira mieux.
Depuis le 11 mai, les journalistes de À part le Corona peuvent enfin sortir de chez eux à la découverte du monde nouveau post-virus qui se prépare. Chaque lundi, on part à la rencontre de ceux qui construisent cette société détoxifiée avec des interviews ou des reportages, mais toujours en respectant les gestes barrières. Aujourd'hui, c'est Lucas qui nous présente une interview réalisée la semaine dernière par téléphone.
Samuel Avo a dévoilé les deux premiers modèles de t-shirts de sa marque de vêtements 100% recyclés Anaod. Il y a 2 ans, Anaod était le projet ambitieux d'un jeune entrepreneur brestois, soucieux de ramener du sens dans l'industrie du textile, la deuxième industrie la plus polluante au monde. Un vêtement fabriqué localement dans le respect de l'homme et de l'environnement, tout en assurant une transparence à son consommateur, voici les principes d'Anaod, marque éco-conçue et 100% française. Dans un entretien téléphonique, le créateur de 22 ans nous explique comment ce projet est né. Vous saurez également avec quoi et où sont fabriqués ces vêtements et comment il voit l'avenir de la marque au logo AD. On y parle également de consommation et du monde d'après le corona, un monde où Anaod et Samuel ont déjà trouvé leur place. Première question Samuel, avec quelle matière les produits de la marque sont-ils composés ?
Elles sont à 50% coton recyclé, 50% polyester recyclé. Donc 0 litre d'eau nécessaire dans le processus de fabrication, sans ajout de produits chimiques, ni pesticides, etc., etc.
Est-ce que tu peux nous dire d'où provient ce coton et ce polyester et qu'est-ce qu'il devient ensuite ?
Le coton recyclé provient de chutes de production d'anciens vêtements usagés qui sont voués à aller à la poubelle. Et le polyester recyclé, c'est du plastique qui provient de bouteilles plastiques recyclées qui sont broyées. On en refait un fil, puis ce fil, on le tricote, ça fait un tissu, et puis après, on l'emmène vers notre atelier de confection près de Rennes, à Goron.
Quels sont les produits que propose la marque Anaod actuellement, et quand est-ce que ces produits seront disponibles?
Pour l'instant, on se focalise uniquement sur une gamme de t-shirts qui seront disponibles en précommande sur Ulule en juin, que 3 modèles, 3 coloris. Et puis après, justement, si ça fonctionne, si ça prend, développer bien évidemment tout ce qui est pull, bonnet et chaussettes pour l'hiver 2020-2021. Et puis après, on aura également un tote bag aussi pour ajouter à la campagne, entre 10 et 15 euros, qui est également fabriqué à partir de chutes de production dans le sud.
À quel prix proposeras-tu ces t-shirts?
Les t-shirts, ils seront au prix de 35 euros, livraison inclus.
Et est-ce que tu peux expliquer à quelqu'un qui trouverait ça cher, pourquoi 35 euros?
Donc dans les 35 euros, il y a bien sûr plus de 50% du prix qui va dans la main-d'œuvre française. Justement, on essaye de valoriser cette main-d'œuvre, bien sûr, et de faire comprendre aux gens que c'est tout à fait aberrant, finalement, d'acheter des produits à bas coût qui sont au prix d'un sandwich. Quand t'achètes un t-shirt à entre 5 et 15 euros, il y a quand même un sacré problème. C'est-à-dire qu'il y a un maillon qui est sous-payé dans la chaîne, on va dire, ou une exploitation humaine quelconque quelque part dans le monde.
Pourquoi la fabrication locale, dans le respect des hommes et de l'environnement, est-elle importante pour toi?
J'ai toujours été attaché à la nature qui m'entoure, on va dire, et je trouvais ça formidable de pouvoir changer à notre manière en portant des vêtements justement meilleurs pour l'environnement et l'homme, en fait plus écologiques. En plus, j'aime bien les fringues, mais bon, sans être tu sais, le fashion addict non plus. Hein. J'aime juste ça, et j'aimerais justement ramener une mode avec du bon sens.
D'où t'es venue l'idée de ce projet? Est-ce que tu as eu envie de bousculer un peu les choses avec ta marque?
Depuis vraiment longtemps, je suis hyper attentif aux histoires, en fait, entrepreneuriales qui changent un peu nos vies, tu sais, nos modes de consommation. Je suis vraiment très admiratif de ces personnes engagées et j'ai un peu voulu aussi monter mon projet, changer les choses à ma manière, et justement du coup dans l'industrie de la mode. Et c'est tous les jours un peu un challenge personnel aussi d'essayer de véhiculer des valeurs, et ce que j'adore aussi dans la mode et dans une marque, et qu'elle peut vraiment faire du bon comme du mal.
Tu vises un public relativement jeune, 20-35 ans. Est-il important selon toi que cette catégorie de consommateurs change ses habitudes de consommation?
Ouais, c'est hyper important d'éduquer en quelque sorte la jeune génération, même si j'en fais partie, hein. Mais c'est des sujets qui m'intéressent, qui sont ultra intéressants et d'actualité aussi pour le futur de nous tous. Il y a beaucoup de personnes qui oublient que derrière un vêtement, il y a du travail, il y a du boulot, il y a des valeurs, et que ça tombe pas du ciel. Dans les magasins, on a l'impression que les vêtements, ils tombent du ciel, on sait même pas d'où ils viennent, on sait rien du tout. Et c'est ça aussi, c'est cette idée qu'on veut détruire aussi un petit peu avec notre marque et revenir à un mode de consommation qui a du sens, un petit peu plus raisonné.
La fabrication française a-t-elle, selon toi, de beaux jours devant elle?
Finalement, avec tout ce qui se passe, on se rend quand même vachement compte qu'on est très dépendant des pays asiatiques, notamment, tu sais, pour l'industrie, et que je pense que le Made in France, la fabrication française, d'ici quelques mois, prendra des grosses parts de marché, et les gens sont en train de se rendre compte que finalement, consommer local, c'est plutôt pas mal.
Qu'est-ce que tu souhaiterais encore plus développer par la suite?
Être encore plus transparent, je pense, vis-à-vis des gens, de toutes nos méthodes de fabrication, aller encore plus au contact de ceux avec qui on travaille, nos collaborateurs, et puis raconter vraiment une histoire derrière.
Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose, une phrase pour conclure?
La petite phrase de fin, ce serait que nous, les consommateurs, on a vraiment un rôle à jouer, et que c'est nous qui avons les cartes en main, et c'est nous qui pouvons rebâtir le monde de demain. Donc faisons bon usage de nos sous. Et soutenons des industries locales propres et qui ont des réelles valeurs. C'est important.
Détendez-vous, c'est assez pour aujourd'hui.
C'est l'heure de la
culture.
Non, parti.
Bienvenue dans la pause culture. Deux étudiants de l'EPJT ont choisi pour vous une madeleine culturelle qu'ils aimeraient partager. Documentaires, séries, livres, musique ou même expositions virtuelles, ils se démènent chaque lundi pour trouver la perle rare. Aujourd'hui, c'est Solène et Lucas qui vous présentent leurs trouvailles, en commençant par Solène et une histoire de zombies.
L'actualité vous angoisse, vous n'en pouvez plus de cette satanée pandémie, vous avez envie de vous déconnecter. Quoi de mieux alors que de regarder des hordes de zombies envahir la Corée du 15e siècle ? La série Kingdom a sorti sa saison 2 sur Netflix. Elle fait étrangement écho à l'actualité avec cette histoire de pandémie, mais c'est surtout une bonne dose d'épique qui vous changera les idées. Kingdom, c'est un super mélange entre une histoire d'horreur et un drame en costume d'époque, entre une plongée dans les manigances d'un pouvoir corrompu et une bonne dose d'hémoglobine. Tout commence avec cette étrange nouvelle, le roi est atteint d'une maladie mystérieuse depuis des semaines, mais impossible de le voir, en tout cas pour son fils, le prince héritier, qui est peu à peu écarté par un clan surpuissant qui cherche à prendre le pouvoir. Pendant ce temps, une épidémie pas comme les autres déboule au sud du royaume. Les morts se transforment en zombies assoiffés de sang et se contaminent à vitesse grand V. Vous ne serez pas déçu du spectacle, des costumes en passant par les décors des monarques, tout est sublime, délicat, luxueux, enfin jusqu'à ce que ça soit détruit par des zombies, et c'est assez jouissif. Je ne peux donc que vous conseiller d'embarquer avec le prince et sa petite troupe d'acolytes qui vont tenter de sauver le royaume de ce mal étrange. Kingdom, saison 1 et 2, c'est donc à retrouver sur Netflix.
Nous ne sommes pas les seuls étudiants en journalisme à faire des podcasts en confinement. Lucas a téléphoné à Mathilde pour parler projet, journalisme et Algérie.
Salut Mathilde, alors tu es étudiante à l'UJDG, l'école de journalisme de Grenoble, et pendant le confinement, avec des potes de ta promo, vous avez lancé votre podcast qui s'appelle Coronapéro. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le concept de ce podcast ?
Oui, alors Coronapéro, c'est un podcast de divertissement. Essentiellement, on parle beaucoup de société, en fait, à travers la littérature, le cinéma, etc. Chaque chroniqueur a un peu sa spécialité. Pierre-Hugo Rébert, par exemple, fait une sorte de revue de presse sur les trucs les plus absurdes qu'ont fait les Français pendant le confinement. Daphné, elle nous parle des réseaux sociaux. Lou décrypte les rêves. Et moi, j'ai fait deux séries ciné sur la psychologie des films d'horreur et la sociologie des comédies musicales. Mais voilà, globalement, c'est des discussions assez ouvertes sur des thèmes de société illustrés par des livres, des films, des jeux. Voilà.
Et si je ne me trompe pas, vous avez sorti samedi 9 mai votre avant-dernier podcast. Dis-nous, quand est-ce qu'on pourra écouter le tout dernier et où est-ce qu'on peut retrouver toutes les autres émissions ?
Eh bah ouais, comme tu dis, on arrive au 25e épisode, il me semble. Là, ça sera le dernier qui sera diffusé ce soir, pour le coup, vers 19h, pour fêter le déconfinement. Non pas qu'on avait envie d'arrêter, mais simplement, ça nous paraissait pas opportun de continuer avec Coronapéro après cette période-là. Mais on se retrouvera au prochain confinement, j'imagine. Et du coup, on peut retrouver les épisodes sur YouTube et vous pouvez retrouver toutes les informations sur Facebook, Twitter, Instagram, sur Coronapéro, le podcast.
Très bien. Si jamais on est reconfiné, on sait qui écouter. Et si je ne me trompe pas, avant d'être confiné, justement, vous avez à l'EJDG, donc l'école de journalisme de Grenoble, monté un beau projet radio. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ?
Ouais, ça s'appelle Radio Campus Algérie. En fait, on est parti d'un constat simple, il n'y a pas de structure type Radio Campus en Algérie et ça manque, il nous semble, véritablement. Parce qu'il faut savoir que près de 70% de la population a moins de 30 ans, ce qui fait des Algériens un peuple très jeune et que là-bas, les étudiants en journalisme sont réservés à une certaine élite, si je peux me permettre, puisqu'il faut avoir fait un bac L et être au-dessus d'une certaine moyenne. Donc voilà, l'idée, c'était de proposer une structure libre, indépendante et bénévole où les jeunes Algériens pourront s'exprimer, prendre la parole et mettre en valeur leurs initiatives, etc. Alors ça fait un peu néocolonialiste dit comme ça, mais on ne s'implique pas personnellement dans l'émission. C'est-à-dire que chaque semaine, on accompagne des jeunes dans la recherche et l'écriture des sujets. Ça peut être des chroniques, des entretiens, tous les formats sont exploitables, mais c'est vraiment eux qui sont aux commandes. Okay. Pour le moment, on travaille avec une asso basée à Oran, Graine de Paix, et on a mis en place un plan de développement pour s'implanter à Alger l'année prochaine. Mais évidemment, ce n'est pas gagné et c'est pour ça qu'on a besoin de vous. On va mettre en place une cagnotte pour acheter du matériel et s'installer dans des locaux adéquats. Et on a également une équipe de journalistes, essentiellement des correspondants qui travaillent sur place et pourront eux aussi accompagner les jeunes une fois le confinement levé. Parce que pour le moment, on travaille à distance hein, avec des interviews au téléphone et un enregistrement par Google Meet.
Et tu penses que Radio Campus Algérie pourrait avoir un rôle si jamais le Irak reprend à la fin du confinement ?
On espère en fait, parce que du coup on a un peu étudié le sujet, on a vu qu'il n'y a pas de concurrence vraiment dans le secteur. Il y a deux radios, enfin il y a la radio institutionnelle, après il y a une autre radio qui est plus branchée musique, il me semble. Mais ouais, il y a pas de concurrence de type Radio Campus, et on espère que ça va prendre. Pour le moment, on reçoit pas mal de demandes, en fait. On est à haut rang pour le moment, mais on reçoit pas mal de pas de candidatures, mais de gens qui sont intéressés pour participer, et on aimerait bien que ça prenne et que ça devienne vraiment un outil d'expression, comme tu disais, une plateforme pour parler de ce qui les intéresse et de ce qui les concerne.
Et où est-ce qu'on peut suivre ce projet, j'imagine, sur les réseaux sociaux ?
Ouais, il y a une page Facebook RCA Radio Campus Algérie où vous pouvez retrouver tous nos épisodes et nous communiquer en fait aussi ce qui vous intéresse parce que c'est comme ça qu'on fait avancer les projets. Et évidemment, s'il y a des gens qui veulent prendre la parole et qui sont intéressés pour participer, on est ouvert à toutes les propositions.
C'est super. On ira suivre ça de très près.
Et merci beaucoup de m'avoir écouté et de m'avoir donné la parole.
Merci d'avoir écouté notre nouvelle formule d'À part le Corona, il se passe quoi ? Vous pouvez nous retrouver sur Radio Prune et Radio Campus Tours, sur SoundCloud pour écouter tous les replays d'À part le Corona et sur notre compte Twitter. Merci et à la semaine prochaine.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, même heure et même place. Pour l'attendant que le monde change, on va se quitter avec les nouvelles consignes à respecter. D'ici là, prenez soin de vous, continuez à vous protéger et écoutez Radio Campus Tour 99.5 FM. C'était Philippe au micro. Salut à toutes et à tous.
Information coronavirus. Le virus est toujours là et nous pouvons tous être contaminés. Pour stopper la transmission, chacun doit être responsable. Dès l'apparition de signes, même légers, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, le nez qui coule ou la perte du goût et de l'odorat, contactez rapidement votre médecin pour qu'il décide si vous devez être testé. En attendant les résultats du test, restez chez vous et évitez tout contact, surtout avec les personnes fragiles. Ensemble, bloquons l'épidémie. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000, appel gratuit. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.